Alors, la prédication, évidemment, va être dans Jean 1. Ça va être les versets 6 à 8. Et le titre est « Témoin à la lumière ». Alors, si vous voulez tourner dans vos Bibles au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, et on va lire les trois versets qui suivent les versets 6, 7 et 8, c'est-à-dire. Alors, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Brièvement, j'aimerais juste voir passer rapidement la conclusion du premier message qui était dans Jean 1, versets 1 à 5. Donc, qu'est-ce qu'on a vu à la fin, qu'est-ce qu'il fallait retenir à la fin, c'est que Jean, que Jésus, c'est-à-dire, est la parole de Dieu. Hein? On a vu ça au verset 1. Vous pouvez vérifier, vous avez le passage devant vous. Deuxièmement, on a vu que Jésus était avec Dieu. Hein? Verset 1 et 2, répété deux fois, Jésus est là avec Dieu. Et enfin, au verset 1, encore une fois, Jésus est Dieu. Alors, ce sont des énoncés clairs, précis, sur la nature de qui est Jésus-Christ. Ensuite, encore au verset 1, on veut voir que Jésus est éternel. Il n'y a pas eu de commencement, il n'y a pas eu de fin. Cinquièmement, Jésus est le créateur de toutes choses. Hein, au verset 3. Verset 4, Jésus est la vie éternelle. Et c'est ce en quoi nous, les enfants de Dieu, nous croyons et nous espérons qu'un jour, nous serons dans l'éternité avec Jésus. Et enfin, septièmement, Jésus est la lumière du monde, mais malheureusement, le monde ne l'a point reçu. Courbons-nous, et avant d'entamer cet évangile, cette partie de l'évangile, on va remettre ça dans les mains du Seigneur. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole divine. Te remercier pour l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile afin de nous donner encore une fois plus l'espérance de cette vie éternelle. Alors, conduis-nous encore une fois ce matin, alors que nous allons parler de Jean-Baptiste, et aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre et à nous approcher de toi à chaque jour par le beau et précieux nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, ce matin, ce qu'on va voir, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été l'envoyé de Dieu. Et on lit au verset 6, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Le verset 6 se rapporte à Jean-Baptiste, évidemment, et non à Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean. Jean-Baptiste fut envoyé de Dieu comme étant le précurseur hein, du Seigneur, celui qui vient avant, celui qui l'a précédé. Et avec l'arrivée du ministère de Jean-Baptiste, prirent fin les 400 années de silence entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, au cours desquels Dieu n'avait donné aucune révélation. Donc, quand vous lisez les dernières phrases de l'Ancien Testament et que vous commencez à lire ensuite le Nouveau Testament, il y a eu 400 années de silence. La mission de Jean consistait à annoncer la venue du Christ et à exhorter, c'est-à-dire encourager les hommes à se préparer à le recevoir. Dans Matthieu 3, verset 3, on peut lire que Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète Ésaïe, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc, le ministère préparatoire de Jean avait été prophétisé plusieurs années d'avance, 7 siècles plus tôt qu'on dit, 700 ans. Et on peut lire dans Ésaïe 40, verset 3, la même chose qu'on vient de lire, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Jean était la voix. La nation d'Israël, spirituellement parlant, lorsqu'on fait référence à Ésaïe 43, constituait le désert sec et aride. Donc, cette voix-là, lorsqu'on lit Ésaïe 43, qui crie « Préparez au désert, préparez pour Israël le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, aplanissez les... » Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il y a, là, les chemins raboteux? « Laissons la place à l'Éternel, notre Dieu. » Jean appelait ses contemporains à préparer le chemin du Seigneur en se repentant de leurs péchés. C'est d'ailleurs la raison pourquoi Jean-Baptiste baptisait. Repentir et ensuite abandonner son péché. C'est beau se repentir, mais il faut abandonner notre péché. Et aussi, Jean appelait ses contemporains à aplanir ses sentiers en renonçant à tout ce qui, dans leur vie, s'opposerait, c'est-à-dire à l'établissement du règne absolu du Seigneur. Jean n'était qu'une voix. Il n'était pas la parole. Par contre, on pourrait dire qu'il était une lampe ardente, une lampe qui brille. Une lampe, vous savez, ça donne sa lumière qu'en relation avec la source d'énergie dont elle dépend. Si vous voulez allumer la lumière chez vous, il y a une petite patente sur le bord du mur qu'il faut vous élever à switch. Et la source vient d'un poteau électrique, en tout cas, ou un souterrain, ça dépend. Mais c'est ça, la façon dont on peut éclairer. Si vous allumez un feu, bien, si vous voulez avoir de la lumière, ça prend du bois, ça prend des branchailles, ça prend une allumette pour partir le feu. Donc, ça veut dire que cette lampe-là, cette lumière-là, qui était le Seigneur, est en relation avec la source d'énergie, c'est-à-dire la lumière la lumière qui reluit de nous dépend de la source dont elle vient. Et la source, c'est le Seigneur. Dans le psaume 18, verset 28, certaines versions, ça va être le verset 29, on lit « Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Alors, vous voyez ici que ma lumière dépend de l'Éternel. C'est lui qui fait briller ma lumière. Pour nous, les rachetés du Seigneur, pour nous qui sommes sauvés, qui avons cru au Seigneur Jésus, qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, qui sommes nés de nouveau, on ne peut pas luire dans ce monde à moins de demeurer près du Seigneur. Ce n'est pas une question juste de dire « Ah, moi, je crois qu'il y a un Dieu, puis le restant de ma vie, je la vis comme si c'était, comme s'il n'existait pas. » Non. Si je veux être une vraie lumière, si je veux luire dans ce monde, il faut que je me demeure près du Seigneur. Verset 7. Il nous dit, il vint pour servir, il parle de Jean-Baptiste, pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. La parole dit que Jean-Baptiste était un témoin. La question que je me pose, c'est pourquoi fallait-il qu'il rende témoignage de la lumière? Pourquoi Jean-Baptiste devait-il rendre témoignage de la lumière? Et la réponse est fort simple, c'est que parce que l'homme est spirituellement aveugle. Dans Romains 3, verset 11, on lit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Ça, c'est nous autres, ça. C'est nous autres avant notre conversion. On ne cherchait pas Dieu. Hein? Absolument pas. On était comme des aveugles. Et l'objectif de Jean, c'est que tous les hommes soit amené à la foi. Et tel est aussi le désir de Dieu, du Dieu de tous les temps. Telle est sa volonté de grâce. Dieu force personne, mais la ressource est suffisante. Dieu a donné une responsabilité à l'homme qui le rend apte à répondre à l'invitation divine. Jean-Baptiste est venu pour témoigner que Jésus était vraiment la lumière du monde et afin que tous les hommes puissent croire en lui. C'était sa mission. C'est ce que Jean-Baptiste est venu faire. Et les mots « témoin » et « rendre témoignage » qu'on lit dans le verset 7, vont recevoir une attention particulière dans l'Évangile de Jean. Hein? Ces mots reflètent le langage juridique, comme que ça on sera en cours de l'Ancien Testament. Le langage juridique de l'Ancien Testament, là où la vérité apparaissait sur la base du témoignage d'au moins deux témoins. Et si vous le regardez dans Jean 8, versets 17 et 18, on peut lire ceci. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. C'est Jésus qui parle aux pharisiens, puis il dit dans la loi de Moïse, c'est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Et ensuite, au verset 18, le Seigneur Jésus dit, « Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ce sont deux, là. Le Fils et le Père rendent témoignage de moi. Et le Seigneur a reconnu ici que la loi de Moïse exigeait le témoignage de deux hommes et aucun de ses propos, de qu'est-ce qu'il a dit, ne démentait. Mais malheureusement, les pharisiens insistaient pour avoir deux témoins. Et là, ils voyaient un Jésus. Il n'était nullement difficile pour Jésus de les produire, parce que le Père aurait pu. Il n'y avait pas de problème à produire des témoins, Jésus. Premièrement, parce qu'il rendait témoignage de lui-même par ses paroles, et par la perfection de sa vie. Il n'y a pas personne qui a parlé comme Jésus. Il n'y a pas personne qui avait une vie parfaite comme Jésus. Et deuxièmement, le Père rendait lui-même témoignage au Seigneur Jésus par ses déclarations d'en haut et ensuite par les miracles qu'il permettait au Seigneur d'accomplir. Jésus accomplissait en réalité les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Et néanmoins, malgré toutes ces preuves solides-là, les chefs des Juifs ne voulaient absolument pas croire en lui. Et comme référence, j'aimerais que vous alliez, qu'on puisse aller voir dans Deutéronome, justement, je parlais de la loi des Juifs, la loi de Moïse, regardez bien dans Deutéronome 17, verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. C'est ça que le disait la loi. Ensuite, Deutéronome 19, 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. La fin du verset 7 dit ceci, « Afin que tous croient par lui. » Le mot « lui » ici à la fin, ce n'est pas le Christ, mais plutôt Jean-Baptiste, que tous croient par ce que Jean-Baptiste dit, par le témoignage de Jean-Baptiste. C'est lui qui était le porteur du témoignage de Christ, sachant que le but de son témoignage était de produire la foi en Christ, le Sauveur du monde. Et vous savez quoi? Ce qui est important de retenir ici pour nous qui sommes assemblés ici ce matin, notre témoignage en 2018, l'Église d'aujourd'hui doit être le même que celui de Jean-Baptiste. Afin que tous croient en lui par nous. On doit amener ce témoignage-là et on a cette mission-là du Seigneur. Ce n'est pas juste Jean-Baptiste, puis ça s'est arrêté là. Ça a continué. Et ça continue aujourd'hui. Et si on est assis ici ce matin, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont parlé pour nous, qui ont témoigné pour nous. Verset 8. Il n'était pas la lumière, en parlant de Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Si Jean-Baptiste avait essayé d'attirer toute l'attention sur sa propre personne, je me demande qu'est-ce qui se serait passé. Mais non, son rôle consistait à attirer l'attention des hommes, pas sur lui, mais sur Jésus. Jean-Baptiste était ce qu'on appelle l'agent, hein, le représentant de la foi. Et Jésus-Christ, lui, c'était l'objet, le but. La personne et le ministère de Jean-Baptiste ont été d'une importance cruciale. Hein? Regardez, on va aller dans Matthieu 11, verset 11, si vous voulez. Et on l'a à l'écran, je crois. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, de femme, c'est-à-dire, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. La déclaration disant que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, bien, cette déclaration-là prouve que Jésus parlait plutôt de la grandeur du privilège de Jean que de sa grandeur personnelle. Et le plus petit dans le royaume des cieux n'a pas nécessairement une stature spirituelle plus élevée que celle de Jean, mais il a des privilèges supérieurs aux siens. Pourquoi? Parce que nous avons le ministère que nous amenons, c'est le ministère de la vie éternelle. Oui, Jean-Baptiste voulait faire connaître Jésus, mais Jésus a amené plus loin, autrement dit, ce qu'il voulait apporter. Être citoyen du royaume, c'est une situation plus privilégiée que d'annoncer sa venue. Et c'est ce que le passage nous dit. Jean a eu l'honneur de préparer le chemin du Seigneur, mais il n'a pas vécu pour jouir des bienfaits du royaume. Il a été le prédécesseur, celui qui est venu avant, celui qui a annoncé la venue du Messie. Et bien des années après le ministère et la mort de Jean, certains n'avaient toujours pas compris que son ministère n'était que dépendant à celui de Jésus. Et pour ça, frères et sœurs, on va tourner dans Actes, chapitre 19, verset 1. On peut lire que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, Paul, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » J'aimerais, avant de conclure, faire une petite mise au point concernant ce passage-là. Lorsque Paul s'est rendu à Éphèse, pour la première fois, il avait promis aux Juifs dans la synagogue de revenir si Dieu le voulait. Et afin de tenir sa promesse, il a pris la route à l'intérieur des terres pour quitter les régions de la Galatie et de la Phrygie, en passant par une zone montagneuse et gagner Éphèse, sans tourner Éphèse, qui était située, elle, sur la côte occidentale de la province proconsulaire d'Asie. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, mais juste pour mettre les faits. Arrivé à Éphèse, Paul a rencontré une douzaine d'hommes qui se disaient des disciples. Et en jasant avec eux, il se rendit compte que leur connaissance de la foi chrétienne était très imparfaite et, on pourrait même dire, défectueuse. Et là, il s'est demandé s'ils avaient réellement reçu le Saint-Esprit. Par conséquent, il les a interrogés. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Dans la version « Le Mestre », je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette version-là, « L-E-M-A-I-S-T-R-E, « Le Mestre de Sassy ». C'est la première fois que j'entendais parler de cette version-là. La question de Paul se lit comme si, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez embrassé la foi? » Darby, la version Darby dit ceci, « Avez-vous reçu l'Esprit-Saint après avoir cru? » Ces deux versions-là impliquent à tort que l'on reçoive le Saint-Esprit quelque temps après avoir été sauvé. Et ces versets-là, ce verset-là, je devrais dire, ne signifie pas que la réception du Saint-Esprit constitue une deuxième œuvre de grâce qui suit le salut. Dès qu'un pécheur se confie au Sauveur, il reçoit le Saint-Esprit. À ta nouvelle naissance, tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a des dénominations qui enseignent qu'on reçoit le Saint-Esprit après. C'est faux. Là, les disciples ont répondu, on n'a même pas entendu parler de qu'il y avait un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu dire que le Saint-Esprit a été donné. Par contre, comme disciples de Jean-Baptiste, parce qu'ils étaient des disciples de Jean-Baptiste, on peut le voir au verset 3, ils auraient dû connaître l'existence du Saint-Esprit par l'enseignement de l'Ancien Testament. Et en plus de ça, Jean avait enseigné à ses disciples que celui qui viendrait après lui, les baptiserait du Saint-Esprit. Celui qui va venir après moi va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc, il se pourrait que ces disciples-là ignoraient probablement le fait que le Saint-Esprit avait déjà été donné le jour de la Pentecôte. Et lorsque Paul leur posa la question concernant leur baptême, eh bien, Paul a découvert que ces hommes-là connaissaient seulement le baptême de Jean. En d'autres termes, leur connaissance se situait au fait, se limitait, c'est-à-dire au fait que la venue du Messie était proche. C'est ce que Jean prêchait. Il s'était fait baptiser en signe de repentance, c'est-à-dire comme préparation indispensable à la venue, à la vue, c'est-à-dire de recevoir, en vue de recevoir le Seigneur comme roi. Et ses disciples-là ignoraient que Christ était mort, qu'il avait été enseveli, qu'il était ressuscité et remonté au ciel, et qu'il avait envoyé le Saint-Esprit. Donc, Paul leur a expliqué tous ces faits-là, et il leur rappela que lorsque Jean baptisait au baptême, du baptême de la repentance, il exhortait ses disciples à croire en Jésus. Donc, rappelons-nous ceci. Cet esprit arrive dans nos vies en même temps que notre nouvelle naissance. Je voulais faire cette mise au point-là parce qu'il y a des gens qui prêchent le contraire. Et c'est important qu'on le sache. J'ai écourté mon message ce matin parce que j'aurais pu continuer versets 9, 10 et 11, mais je voulais juste m'attarder à Jean-Baptiste pour ensuite faire un suivi avec le reste de ce que Jean dit dans Jean 1. Mais même si l'enseignement est court ce matin, il y a de quoi retenir. Il y a de quoi retenir pour nous, les chrétiens, de ce matin. Oui, on reconnaît qu'il y a un homme qui a été envoyé de Dieu. Et son nom était Jean-Baptiste. Hein? On retient ça du verset 6. Et au verset 7, cet homme-là, Jean-Baptiste, il est venu pour servir de témoin. Pour rendre témoignage. Lorsque vous êtes témoin, c'est parce que vous avez vu ou entendu parler de quelque chose de vrai. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Et ça, ça me parle en disant, surtout en étant, en me référant au verset 8, Jean n'y était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Quel est mon témoignage à moi chez les chrétiens et chez les non-chrétiens? Lorsque j'annonce Jésus-Christ comme sauveur du monde, Est-ce que les gens peuvent s'appuyer sur la crédibilité de mon témoignage? Est-ce que je prêche la vérité? Est-ce que j'y crois? Suis-je un témoin fidèle? Jean-Baptiste a été capable de laisser toute la place à Jésus quand Jésus est arrivé. Parce que Jean-Baptiste, il était populaire auprès des gens. Beaucoup de personnes venaient à lui pour le baptême de repentance. Beaucoup aussi ont crié le vendredi saint, crucifiez-le. Alors, ma prière ce matin, c'est que dans nos vies, nous puissions avoir comme modèle Jean-Baptiste, comme un témoin fidèle qui a même perdu la vie à cause de son témoignage. Ça veut dire beaucoup pour nous autres. En 2018. Ça demande beaucoup de réflexion. Et c'est là-dessus que je vais me laisser moi-même réfléchir sur ce que Jean était, Jean-Baptiste, et sur quel genre de témoignage je suis. Papa du ciel, puisses-tu faire silence dans nos cœurs? Et Seigneur, puisses-tu nous donner la grâce de réfléchir à notre témoignage? Soyons pas des chrétiens du dimanche, mais des chrétiens de toute la semaine. Qu'on puisse partout où on va, Seigneur, lorsque l'occasion se présente, qu'on puisse pouvoir témoigner de la foi, de ce cadeau, de cette grâce que tu nous as fait. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas ce matin, je te prie que tu puisses toucher leur cœur. Toucher leur cœur de façon à ce qu'ils, comme nous on l'a fait, Seigneur, reconnaître qu'on est des pécheurs, que nous sommes perdus. Et que sans Jésus, sans le ministère de Jésus-Christ, sans le sacrifice de Jésus à la croix, nous ne pouvions pas être sauvés. Donc, accorde-nous cette foi, afin que ces gens-là puissent s'attacher à toi. Et ensuite, marcher selon ce que ta parole nous enseigne. Chaque jour, en étant persévérant jusqu'à la fin. Et un jour, on sera avec toi pour l'éternité, avec tous ceux et celles qui ont cru. Je te prie pour l'Église, Seigneur, afin qu'elle puisse, elle aussi, reconnaître là où elle a manqué. Te le confesser, Seigneur, et ensuite, Père, que l'on puisse marcher à nouveau, continuer notre démarche vers la félicité éternelle. Et c'est en Jésus, je te prie. Amen.
Amen.